monde aime Franquin.
Vous avez des idées noires en regardant la télévision? Non, vous regardez la télévision en mangeant, vous jouez du trombone en ayant les idées noires, mais alors suivez-nous dans l'univers de Franquin. Isabelle Franquin, la fille d'André Franquin, nous parle aujourd'hui de l'hypersensibilité de son père.
Il y a toujours un espèce de regard ironique sur les choses. Bon, comme c'était les débuts de la télévision, on avait cette fâcheuse manie de regarder la télévision quand on mangeait. Et dès qu'il y avait une émission ridicule ou quelqu'un qui faisait des choses absurdes, évidemment, il le brocardait. Et d'une manière tellement, tellement drôle que souvent, j'arrivais pas à finir mes repas, quoi. Tellement je riais. On riait comme des fous.
Un jour, on m'a dit deux, trois fois, tu devrais envoyer Gaston à l'armée. Et en effet, nom de nom, les gaffes qu'il pourrait faire avec des armes, qu'est-ce qu'il pourrait faire péter à l'armée, des machins comme ça. Mais je ne l'ai jamais fait parce que l'âge de Gaston, comme beaucoup de personnages de bande dessinée qui restent au même âge comme ça, on ne sait pas quel est leur âge.
Il était terriblement antimilitariste et pourtant il n'avait pas... il avait vécu la guerre, il était passé tout juste à côté, quoi. Sa famille à lui n'a pas du tout été touchée par la guerre, que je sache. Il est vraiment passé à travers comme ça, à travers même son service militaire, parce qu'il a fait partie de la classe née en 1924 qui ne l'a jamais fait pour des raisons que je suis incapable de préciser. Et il a certainement été choqué par l'occupation, mais je pense que c'est plutôt une prise de conscience tardive, davantage à la maturité venant et à la lecture de publications comme Life Magazine, où il y avait énormément de photos de la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. Et il a plus ressenti ça, curieusement, par ses lectures que par la guerre à Bruxelles quand il était jeune.
Tout le monde aime Franquin.
Et il y a d'autres idées aussi, des idées, je ne vais pas dire plus politiques, mais des idées de vie ensemble qui influencent même les choses modestes comme une bande dessinée pour faire rire. Oui, je suppose que je feuilleterai un Gaston avec vous, j'en trouverai.
Bien avant le trombone illustré, quand Spirou s'est un peu militarisé, les bandes dessinées étaient vraiment souvent fort violentes. Et c'est vrai que quand on recevait le Spirou, quand on mangeait ensemble, qu'on petit déjeunait ensemble, et que mon père ouvrait le Spirou et se mettait à lire le Spirou avec force commentaire, il critiquait énormément le journal. Il était extrêmement triste de la tournure que prenait le journal. Et
Spirou, à ce moment-là, avait pris une certaine physionomie et Franquin et moi, on se disait que c'était pas le journal dont nous rêvions.
Yvan Delporte, rédacteur en chef de Spirou, de 57 à 69.
Et comme Franquin aime bien le journal de Spirou et moi aussi, on a pris une décision. On ne pouvait pas aller trouver M. Dupuis et lui dire, écoutez, il faut virer le rédacteur en chef et l'éditeur. Alors, ce qu'on a fait, c'est M. Dupuis, ce qui fait l'esprit d'un journal, c'est son rédacteur en chef et son éditeur. Pourquoi n'y aurait-il qu'un seul esprit dans Spirou? Nous vous proposons, moyennant une somme forfaitaire, de vous faire, dans le journal, un supplément qui sera différent.
Évidemment, vous pouvez imaginer pour un jeune dessinateur que j'étais...
Frédéric Janin, Germain et nous.
Le fait de côtoyer les grands, Franquin, Delporte et toute la bande, dans les caves du trombone illustré, c'était très impressionnant. Et c'était fascinant de voir comme Franquin était hyper sensible à tout ce qui se passait. C'est quand même dans le trombone illustré qu'ont démarré les idées noires.
Mais les idées noires cherchaient à être rosses, hein, mais... Dès le début, je dis, tiens, c'est noir, on peut faire des choses un gag un peu sinistre, un peu monstrueux, avec des monstres, etc. Et ça cherchait donc pas un petit scandale dans Spirou, mais c'était différent, ça devait être plus,
plus corsé que les bandes dessinées habituelles. J'ai jamais confondu ça avec Gaston, mais c'était fait pour faire rire. Un gag de Gaston et une idée noire, c'est totalement différent. J'ai fait un petit gag avec un gars qui se suicide de trois, quatre façons différentes. Par exemple, j'aurais jamais fait, je ne ferais pas un dessin de Gaston avec un suicide. Ou du moins, il faudrait que ce soit très léger. Mais il y a beaucoup de gags qui sont uniquement des gags pour faire rire. Bon, il y a des gags où certains soucis, par exemple, il fera volontiers un gag qui se moque des armes, ou une histoire comme ça, il n'aime pas les armes. Il y a beaucoup de gens, c'est curieux, qui adorent les armes, mais je ne sais pas comment c'est possible. Avec la vue d'une arme est déjà quelque chose d'indécent en soi, c'est quelque chose... Ça ne devrait pas exister, des machines faites pour tuer, comme ça, c'est inséparable de l'humanité, d'accord.
C'est marrant parce qu'au départ, on se dit l'école de Marcinelle, c'est des petits dessins rondouillards, gentillets, mais tout de même, il y avait chez Franquin et Delporte une envie de bousculer les choses, une envie de réagir, une envie de marquer sa sensibilité à ce qui se passe dans le monde, sans être pontifiant ou militant, bien sûr.
Je pense que l'empathie, c'est un mot important pour définir son œuvre. Cette intensité des personnages est inséparable de cette empathie qu'il éprouvait pour le monde autour de lui.